et nous accueillons Séverine au 3921. Bonsoir Séverine.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'ailleurs, pour commencer, je suis très contente de vous avoir au téléphone.
D'accord.
Je vous écoute tous les soirs et puis voilà, ça me détend, ça fait du bien. Et puis ce soir, j'avais vraiment besoin de vous appeler, on va dire.
Écoutez, vous avez bien fait d'appeler. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Séverine, dites-moi.
J'ai l'impression d'avoir ma place nulle part. J'ai toujours l'impression d'être de trop, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir ma place nulle part, en fait. Parce que bon, j'ai eu plusieurs déménagements successifs.
Oui.
Pour des voisins qui m'ennuyaient. Là, je me suis installée à l'endroit où je suis depuis le mois d'août. Ça allait à peu près. Mais là, maintenant, ben, ça devient n'importe quoi. En fait, voilà, on me regarde tout le temps. Je sors, on se met à ricaner. C'est, voilà.
Ça fait longtemps que vous avez ce sentiment-là de n'avoir votre place nulle part.
Alors, ma vie était très compliquée. Hein.
Comment ça, dites-moi.
J'ai eu un ex-mari qui était violent verbalement, qui m'a détruit.
Mmh.
Déjà gamine, je connaissais du harcèlement à l'école, ce qui m'a pas fait du bien. Ma fille est autiste. Ça n'a pas arrangé les choses, parce que les gens vous regardent bizarrement.
Votre fille est autiste, elle a quel âge ?
Elle a 10 ans.
Elle a 10 ans. Elle vit avec vous tout le temps ?
Elle part chez son papa le week-end.
Oui. Et vous avez l'impression qu'on vous regarde bizarrement quand vous êtes toutes les deux ?
Oui. Oui. De toute façon, même quand je suis toute seule, parce que déjà, je me sens mal dans ma peau, puis j'ai l'impression que les gens le ressentent. Physiquement, tout ça, j'ai l'impression que les gens me le ressentent. Je me suis jamais sentie bien, quoi, en fait.
Mmh. Mais ça vient donc de ce harcèlement à l'école, et vous n'étiez pas défendue par vos parents, vos parents n'ont pas saisi qu'il y avait un problème. Vous ne vous êtes pas sentie protégée ?
Ils ont toujours tout fait pour moi, mais ça n'a pas suffi, on va dire. Ça n'a pas suffi. Il y avait toujours quelque chose qui... Allô ?
Oui, oui, je vous écoute.
Ah, excusez-moi, je croyais que ça avait coupé. Non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Puis, les meilleures années de ma vie, ça a été de 20 ans jusqu'à 28. Là, je me suis éclatée dans le théâtre. J'avais un groupe d'amis. On faisait de l'écriture. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses culturelles. Et puis, j'ai fait cette mauvaise rencontre. Voilà.
De 20 ans à 28 ans, donc tout se passait bien avec ses amis.
Oui, oui,
le
tout
théâtre.
Se passait bien. Oui, j'avais. Et puis j'avais un petit groupe d'amis autour de moi. Voilà, tout allait bien pour moi. Puis j'ai trouvé cet homme, quoi.
Cet homme vous a donc fait du mal. Comment s'y est-il pris exactement ?
En me dénigrant tout le temps.
Tout le temps.
En dénigrant ma famille,
oui.
En me voulant du mal, en voulant me faire passer pour une personne folle,
mm-hmm.
afin de m'enlever ma petite. Pour vous expliquer aussi, un an après la naissance de ma fille, j'avais fait une grossesse extra-utérine. Ça faisait un mois que je souffrais de douleurs, il ne voulait rien faire, il ne voulait pas que j'appelle l'ambulance quand il n'était pas là, il ne voulait rien. Et en fait, quand il s'est décidé à m'amener aux urgences, il me restait un quart d'heure à vivre. Donc j'ai été opérée d'urgence et j'ai failli passer ce jour-là.
D'accord.
Oui. Et c'est là qu'il y a eu un déclic en moi, que je me suis dit, ben, de toute façon, il faudra que je parte.
Ouais. Et vous êtes partie, vous avez fini par partir.
Oui, parce que j'avais fait appel à une assistante sociale, et cette assistante sociale, un jour, appelle ma mère, elle a dit, si elle ne veut pas partir, on lui enlève la petite. Mmh. Donc mes parents vont me chercher.
D'accord.
Voilà.
Cet homme, en fait, il a continué à vous embêter après ? Il a continué à...
Toujours un petit peu, Olivier, hein, toujours. Par exemple, là, ma fille, il y avait eu un cas Covid dans son IME la semaine dernière. Voilà, quoi, il fallait absolument lui dire quand c'est qu'elle va passer le test, si j'avais les résultats du test.
Mmh. Il continue à être dans votre vie, donc, cet homme.
Oui, oui.
Il n'a pas digéré que vous partiez ?
Ben pourtant, il a refait sa vie. Il est marié, il a deux enfants. Voilà. Mais par contre, j'entends dire, ben mes enfants sont normaux, donc ça vient d'elle.
Ah oui, d'accord.
L'autisme de ma fille, voilà. Ouais. C'est ce genre d'homme.
Ouais, d'accord.
C'est ce genre d'homme.
Non, mais c'est...
En plus, j'ai aménagé dans cette ville pour soutenir mes parents qui vont pas bien du tout. Si vous voulez, mon papa vieillit mal, donc il refuse de sortir et tout. Donc il faut soutenir ma mère quand même. Donc ça lui fait du bien de m'avoir accoussée. Elle vient me voir, tout ça. Et puis, ben, jusqu'à présent, tout allait bien, sauf que maintenant, ben, ça devient la débandade chez moi, quoi.
Est-ce que cet homme, aujourd'hui, en fait, qui a refait sa vie, qui vous met sur le dos la responsabilité de l'autisme de votre fille, est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, n'a pas une plus grande résonance que vous m'en parlez là ce soir? Est-ce que il ne vous met pas en permanence trop la pression? Si. Et si. Vous finissez par croire à ce qu'il dit?
Et ben en fait l'IME m'aide beaucoup par rapport à ça, parce que j'ai toujours peur. J'ai toujours peur qu'ils fassent des histoires avec eux, quoi, qu'ils racontent des choses mauvaises sur moi. Donc, on en parle beaucoup avec sa responsable en IME. Quand on a des coups de fil quotidiens, enfin, tous les 15 jours, ça revient beaucoup. Voilà. Ils m'aident beaucoup par rapport à ça. Ma fille, oui, me soutiennent beaucoup. Ils se sont aperçus qu'il y avait des choses. Par exemple, ben, des fois, sur le mot de l'école, il va dire que ben, il manquait une paire de chaussettes dans le sac de rechange. Des choses comme ça. Mais c'est toujours des reproches. Les cheveux sont trop longs, je ne l'ai pas amené au coiffeur. Voilà, des choses comme ça. Toujours, toujours, toujours. Donc, il faut toujours que j'émancipe sa demande.
Toujours,
je suis toujours dans... Oui.
Toujours des reproches, toujours. Et c'est dingue, hein, ces personnalités-là, hein, qui passent leur temps à...
Ouais.
Qui ne lâchent rien. C'est fatigant. C'est fatigant.
Bah, les déménagements successifs, c'est pareil. Il me les a reprochés. Quand je déménageais, il me l'a reproché. Il m'a dit que c'était pas bon pour elle. Enfin, il m'a toujours tout reproché, quoi.
Est-ce qu'il ne serait pas temps, Séverine, de ne plus être touchée par ce que cet homme dit ?
Eh ben, je ne sais plus. Je ne sais pas comment faire ça.
Mais comment faire ? Le décider ?
Oui.
Décider que cet homme n'a pas plus de connaissances que vous, il n'a rien de plus que vous, cet homme, il a juste cette tendance fâcheuse à tout le temps affirmer des choses qui sont souvent à côté de la plaque, parce que pardonnez-moi, quand on accuse son ex-femme d'être la cause de l'autisme de la petite qu'ils ont eue ensemble. Et vous le savez, vous, que c'est inexpliqué, les causes de l'autisme que...
Oui, je sais, mais ça n'empêche qu'il voulait faire des recherches génétiques pour le prouver, ça.
Non, mais il est... Je pense qu'il est définitivement axé pour vous faire du mal, en fait, pour essayer de vous détruire, en fait. C'est son objectif, ça. Quand il était avec vous, vous m'avez raconté qu'il le faisait déjà. Et puis, il n'est plus avec vous et il continue.
Alors, il le fait moins, parce que la première année qu'on a divorcé, j'étais obligée d'envoyer un texto à 8h du matin pour dire « elle va bien, elle a bien dormi », à 17h pour dire « elle a passé une bonne journée ». On n'en est plus à ça. Les textos, c'est quand même très rare maintenant.
D'accord.
Mais il se sert du cahier de l'école, par exemple. Vous voyez, parce que tous les soirs, on écrit un mot à l'IME expliquant la journée. Et quand il l'a le week-end, il ne va pas se contenter de ça. Il va dire aussi, il manquait ci, il manquait ça, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Où est passé ci, où est passé ça. Voilà.
Oui. Mais vous savez, ça, c'est souvent dans les cas de divorce, c'est souvent des personnalités qui sont comme ça, qui continuent de... d'embêter l'autre, quoi, en permanence. C'est vraiment un truc qui les fait sans doute vibrer, oui.
Alors, la psychologue d'IME de ma fille m'avait expliqué que c'était de quelqu'un de très angoissé et qui projetait ses angoisses sur les autres.
Oui, sans doute.
Oui. Donc,
Mais il faut, comme je vous l'ai dit, essayer de décider vraiment qu'il n'a plus d'impact sur vous. En fait, pour ça, Séverine, il faut que vous réalisiez une chose, c'est que vous faites comme vous pouvez. Vous faites de votre mieux.
Oui, mais je voudrais faire encore mieux, par exemple.
Mais oui, mais ça viendra... ça viendra.
Je voudrais retravailler. Là, mon rêve, ça serait quand même d'être famille d'accueil, mais je sais que pour l'instant, ce n'est pas possible. Je voudrais accueillir des enfants. Et je sais que c'est pas possible dans l'immédiat. Et il y a plein de projets que je voudrais faire que je peux pas pour l'instant, qui sont bloqués pour l'instant. Voilà. Ça n'avance pas assez vite pour moi.
Et vous ne vous sentez pas la force ne serait-ce que de réfléchir à tout ça, d'essayer de reconsidérer votre position à vous, reconsidérer les bonnes choses que vous avez faites jusqu'à maintenant, reconsidérer votre position par rapport à votre enfant, reconsidérer que qui est-il cet homme pour vous donner des leçons en permanence et critiquer ce que vous faites.
Mais ça, maintenant, j'ai appris qu'il était pas plus que moi, de toute façon, qu'il n'avait pas de leçons à me donner. Ça, je l'ai appris. J'ai réussi à faire un travail là-dessus, mais vous savez, le jour où on avait, avec mes copines dans un centre social, je leur ai fait faire du théâtre, comme j'en ai fait beaucoup.
Oui.
Et ma responsable famille m'a dit, c'est toi qui vas animer ce groupe théâtre, et je me suis aperçue que quand on faisait de l'impro, il revenait quand même dans les impros, quoi. Je rejouais.
C'est-à-dire, mais par contre, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas.
Je le rejouais, lui, pendant l'impro.
Oui.
Je rejouais ce qu'il me faisait.
D'accord.
Je comprends. Je rejouais des scènes que je... Voilà. Je rejouais son personnage, en fait.
Non, vous rejouiez votre personnage quand vous souffriez.
Le sien.
Ah, le sien.
Le sien. Ah, là. Oui, le sien.
Oui, donc c'est quelqu'un qui vous marque, qui vous a beaucoup marqué.
Oui.
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 Est-ce que vous suivez une thérapie pour ça?
Non, j'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu. Alors, ça m'arrive de faire des hypnoses sur Internet le soir, des choses qui me font du bien, mais j'ai jamais voulu une thérapie. J'avais essayé un petit peu, parce que j'étais hébergée par SOS Violence à l'époque. Et bon, les assistantes sociales m'avaient dit mais ça serait bien. Et j'avais essayé et ça n'a pas marché. Je ne me suis pas sentie à l'aise avec ça, donc voilà. J'ai jamais fait de thérapie.
Et vous devriez maintenant vous lancer là, Séverine, vous avez 42 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose qu'on a besoin de réparer. Vous pensez que c'est derrière vous tout ça, que ça y est, c'est comme ça
oui,
toujours.
Oui, bah, il y a tellement de personnes qui ont besoin de moi que j'ai pas le droit de penser à moi, quoi, de me soigner.
Pardon ? Pourquoi ? Pourquoi ça ?
Là, je me demande si j'aurai le temps. Puis c'est un peu dans ma personnalité,
oui,
de passer derrière les autres.
Hein. Mm-hmm. Mais ça, c'est vous qui vous racontez ça, parce que on a toujours le temps de s'occuper de soi.
Bah pourtant je m'oublie.
Ben oui, mais parce que vous vous oubliez. Mm-hmm. Mais je vous certifie que on a toujours le temps de s'occuper de soi. Il suffit juste de décider de s'occuper de soi. Il y a un nombre d'espace-temps dans notre journée, dans notre vie, que l'on peut consacrer à soi-même.
Ah ben, c'est vrai que de plus en plus, j'éprouve le besoin de me relaxer. Hein. Je fais des coloriages relaxants. J'ai une copine qui m'a dit « Continue, c'est de l'ancrage en toi, ça te fait du bien. » C'est une thérapie aussi. Voilà, je prends du temps pour moi quand même dans la journée quand elle n'est pas là, mais c'est vrai que bon, mes parents, tout ça, ça me pose un souci. Je m'occupe beaucoup de mes parents.
Ma fille,
j'ai un copain aussi, bien qu'il ne vit pas avec nous, mais...
Mais c'est pour cela que je vous disais de reconsidérer les choses. Parce que vous évoquez toutes ces personnes importantes pour vous. Vous évoquez aussi le besoin que ces personnes ont de vous. D'accord ?
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'elles ont besoin de vous, ces personnes, et que justement, parce qu'elles ont besoin de vous en forme, que cela doit faire partie de vos préoccupations de vous occuper de vous, d'être toujours forte, d'essayer d'avancer maintenant, de reconsidérer les choses, de reconsidérer même toute l'activité que vous avez dans votre vie, l'activité même émotionnelle pour votre fille, pour vos parents. Et puis, bon, vous m'avez dit que ça vous touchait moins ce que cet ex-mari vous disait, mais faire les choses pour vous, mais aussi pour ceux qui vous aiment. Parce que ces parents, ils ont besoin de vous aujourd'hui. Ils sont en train de vieillir. Je sens que vous avez envie de faire attention à eux. Vous avez envie de les protéger.
Oui. Mais c'est sûr. D'ailleurs, là, la dernière fois, le médecin de mon père m'a dit « Maintenant, vous l'accompagnerez à chaque fois, parce que sinon, il ne fera aucune visite médicale, il a des suivis à faire, et il m'a dit maintenant, ça sera à vous de l'accompagner, parce que votre maman se fait âgée, puis il ne veut pas tout seul, il ne le fera pas tout seul, donc je veux que vous veniez à chacun de ses rendez-vous maintenant. Donc je sais que je vais avoir une bonne charge de travail, quoi.
Oui, mais encore une fois, je vous le répète, je pense que vous avez besoin à un moment de reconsidérer les choses et de vous occuper de vous, parce que vous allez vous apercevoir qu'à un moment, vous manquerez d'énergie pour les autres. Vous manquerez d'énergie parce que s'occuper de ses parents, et visiblement des parents qui ne sont pas très en forme, ça prend beaucoup d'énergie. S'occuper d'une petite qui est autiste, qui a besoin d'attention, qui a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un autre enfant, ça prend de l'énergie aussi.
Puis je vais vous dire, Olivier, quand on se sent mal chez soi, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on entend et qu'on voit ce que je vois en ce moment, ça n'aide pas non plus, quoi. C'est sûr. Hein.
Qu'est-ce que vous voyez en ce moment ?
C'est sur fond d'alcool, voilà, quoi.
C'est-à-dire ?
Je vous le dis clairement, les gens boivent, quoi, dans la cour, et puis on descend, ça vous interpelle. L'autre jour, j'étais à ma boîte aux lettres, j'entends « bouge de là » parce qu'il habite juste à côté des boîtes aux lettres, mais enfin, voilà, quoi, je ne supporte plus.
Vous ne supportez plus votre entourage,
je ne supporte pas l'alcool. Ça, c'est un truc, c'est malgré moi, c'est un truc que je ne supporte pas, quoi. Puis bon, je peux plus me mettre sur mon balcon sans les enfants parce que ça, c'est dans la cour et ça hurle. Donc j'ai plus mon intimité. Des fois, ils sont rentrés par ma porte d'entrée parce que ils confondent avec la porte qui monte chez eux. Voilà, quoi. Ça regarde chez moi. Ça fait des commentaires quand je passe. Voilà, quoi. C'est en ce moment, mais c'est invivable, quoi. Et ça, c'est depuis les beaux jours, parce que jusqu'à maintenant, ça pouvait faire, mais ça va faire 15 jours, 3 semaines, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et alors que je pensais que j'avais l'appel où j'habitais jusqu'à présent. Mais là, c'est... Voilà, quoi.
Est-ce que vous avez, à votre avis, montré que ça vous touchait quand il faisait des réflexions ? Est-ce que vous avez montré un agacement ou même de la peur, vous voyez ?
Alors maintenant, je ne dis plus bonjour, bien évidemment. Je ne les regarde pas. Avant, c'était que moi qui sortais les poubelles parce qu'on n'a pas d'entreprise pour le faire, c'est aux voisins de le faire. Et généralement, c'était toujours moi qui le faisais et des poubelles qui étaient très très lourdes. Et ça, j'essaye d'abandonner. Le plus souvent, maintenant, je laisse faire. Je laisse couler. C'est plus moi qui le fais, forcément. Mais avant, c'était pratiquement tout le temps moi qui l'ai eu. Tout le temps, moi qui le faisais, par souci de bien faire, de faire dire, voilà, quoi. Par souci de bien faire, quoi, de passer pour quelqu'un de bien. Et en fait, on n'a aucun remerciement, voire pire. Donc, j'arrête tout.
Oui. En fait, vous vous occupiez de ça pourquoi ? Parce que personne d'autre ne le faisait.
Voilà, parce que j'avais l'impression que personne d'autre ne le ferait si je ne le faisais pas.
Ouais.
Ce qui n'était pas faux. Donc voilà, et maintenant j'abandonne un petit peu par rapport à ça. Je lâche un peu par rapport à ça. Puis voilà, mais c'est vrai que, par exemple, bouquiner sur mon balcon, c'est pas possible parce qu'ils sont tous dans la cour et qui vont gueuler, boire des bières, insulter... Voilà, quoi.
Mais qui sont ces personnes, en fait ? Ce sont vos voisins ou ce sont des gens qui
des
viennent...
Des voisins, oui, oui. Non, des voisins.
Et donc, tous les jours, ça boit dans la cour ?
Tous les jours, dès qu'il fait beau. Dès qu'il fait beau.
Oui, non, c'est sûr que ça doit être dérangeant. Donc, vous ne sortez plus sur votre terrasse ?
C'est très dérangeant. C'est un balcon, mais... Donc, c'est un balcon qui fait deux paliers, plus ils passent par là pour rentrer chez eux. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a la même famille qui habite en haut et en bas dans la cour. C'est la même famille.
D'accord.
Donc la même famille se réunit forcément, quoi. Et ça, ça peut commencer à 9-10 heures du matin, hein, par exemple. J'ouvre mes volets, ça y est, ils sont là et ils me regardent. Ça, c'est sûr. Hein.
Vous avez dit à Florian que vous vous sentiez persécuté par le voisinage, en fait. Ouais. Qu'entendez-vous par là ?
Je suis persécutée parce qu'on me regarde, on regarde chez moi. Et voilà, on me lâche plus, en fait. Donc oui, persécutée, oui, effectivement, oui.
On ne vous lâche plus, c'est-à-dire ?
Ben, si je descends, on va me regarder, ça va ricaner derrière mon dos, voilà. C'est ça que j'appelle persécuter, parce
oui,
que j'aimerais autant qu'on m'ignore carrément, quoi, ouais, comme ouais. Moi je fais, plutôt que voilà. Voilà. Moi qu'on m'ignore, je demande que ça, quoi. Qu'on me laisse tranquille. Je pense que je suis comme tout le monde et que j'en ai besoin, quoi, comme tout le monde. J'en ai marre au bout d'un moment. Parce que j'ai déjà connu ça. Hein. J'ai eu une voisine schizophrène qui nous a fait partir. J'ai eu un endroit où on m'a clairement dit au bout d'un an qu'une gamine autiste n'avait rien à faire dans un HLM, qu'elle faisait du
bullying. Pardon.
Donc on est reparti. Oui, oui, aussi, oui.
Que aussi. Votre fille faisait trop
que, de bruit. Ma fille autiste n'avait rien à faire dans un HLM, oui.
Mais qui vous a dit ça, par exemple ? Quel type de personne ?
Une voisine, quand j'étais en HLM, j'ai eu droit à ça aussi. Le dernier logement, bon, on avait l'appel là où j'étais avant, seulement bon, l'endroit était très vétuste. Ça avait été refait par les propriétaires eux-mêmes, et puis ça avait été refait à l'arrache, et le loyer était très cher, et bon, on n'a pas pu rester. Donc. Et après, j'ai choisi de vivre à côté de mes parents, parce que je voyais que ça n'allait pas, donc voilà.
Et vous avez peur de ces gens, en fait, à chaque fois ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un langage...
Moi, j'ai toujours peur de quelqu'un qui boit, que ça soit...
Oui.
Voilà. Dès que ça boit, que ça crie, je ne peux pas. Déjà, c'est quelqu'un qui boit, je sais qu'ils n'ont pas toute leur tête, quoi. Dès que ça boit, voilà. Bon, l'alcool, je ne peux pas. L'alcool, je ne peux pas. Déjà, mon ex-mari avait tendance à le faire un petit peu.
D'accord.
Donc...
Il avait tendance à boire.
Oui.
Et je voulais vous demander, en fait, si ces voisins-là, ces fameux voisins qui visiblement se moquent un peu de vous, qui vous font des réflexions, est-ce que vous n'avez pas un langage corporel qui leur montre que ça vous touche ? Ce qu'ils disent, vous comprenez ?
Non, parce que je passe devant sans regarder. Je mets des œillères, je regarde pas. Je monte mes escaliers, puis c'est tout, moi. Mmh.
Tous les jours, vous emmenez votre fille donc au centre, là ?
Ouais. Bah, c'est par le taxi qu'elle part. Donc le matin à 8h, bah, personne ne me voit parce que c'est trop tôt. Et puis voilà, quoi.
Parce qu'en fait, les personnes qui vous entourent ne travaillent pas, en fait, visiblement.
Ah non, personne ne travaille dans cette maison. Enfin, les personnes qui boivent ne travaillent pas.
Mais ce sont des personnes qui ont quel âge ?
Ben, c'est pas des jeunes, hein. Enfin, il y a des jeunes, mais il y a la mère, il y a l'oncle aussi. Donc, il y a vraiment des adultes de plus de 50 ans, je dirais. Qui boivent. Hein. Et voilà. Parce qu'encore, si c'était des jeunes, bon, on peut comprendre. On dit il faut que jeunesse se passe, mais là, c'est pas le temps. Hein. Voilà.
Jus nous dit au 739-21 que vous semblez souffrir beaucoup. Pourquoi ne pas aller sur OVS rencontrer des gens qui n'auraient pas d'a priori ? Alors, OVS, je ne sais pas ce que c'est, Jus. Vous savez ce que c'est ?
Oui, moi non plus. Non.
Non. Aucune idée en régie de ce qu'est OVS ? On cherche ce que c'est, mais... On va sortir. Voilà. C'est un site d'amis et de rencontres qui couvre le territoire. Hein, et on peut, sur ce type d'application, vous voyez, rencontrer des gens qui vont avoir envie de faire les mêmes choses. Je le dis souvent hein, sur cette antenne, il y a des gens qui ont les mêmes centres d'occupation.
Et pour ça, c'est vrai que j'ai toutes mes activités au centre social. Hein. J'ai mon groupe de mamans que j'adore, mais c'est vrai qu'avec le Covid, beaucoup de choses ont été... on se voit moins souvent qu'avant, quoi.
Oui.
Je les revois vendredi, donc je vais en profiter un maximum. Voilà, quoi. C'est vrai que j'ai mon petit groupe de mamans. C'est vrai que ça nous fait du bien. Avant, c'est vrai que je faisais beaucoup d'activités avant le Covid, oui. Ah oui, c'est vrai que dans les centres sociaux, de toute façon, je me suis inscrite dès que ma fille est rentrée en IME parce que je me suis dit, mais je vais servir à quoi maintenant? Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens. Puis j'attends que ça reprenne un petit peu pour ressortir, voir du monde. Parce que franchement, le village où j'habite, c'est très, très difficile de nouer des liens parce que les gens sont un petit peu bizarres. C'est un peu chacun pour soi. Et puis voilà, je me sentais mieux là où j'habitais avant, ça c'est sûr. La ville d'à côté où j'habitais avant, c'est sûr que je connaissais plus de monde, je revoyais les mamans de l'école, là où allait ma fille avant. J'avais gardé des liens avec des mamans. Je voyais plus de monde. Mais depuis que je suis là pour mes parents, c'est vrai que...
Mmh, mais vous ne pouvez pas, Yvette se demande si vous ne pouvez pas déménager dans un endroit plus calme.
Le problème, vu que là, ça fait moins d'un an que je suis là, si je m'amuse à déménager toutes les années, la garde de ma fille, c'est sûr, on me la retire.
Pourquoi ?
Il m'a déjà parlé de tribunaux et tout ça. Si je lui reparle aujourd'hui d'un redéménagement, non. Et puis, comme je vous dis, il faut que mes parents soient à côté. Et voilà.
Non mais d'accord, mais vous êtes à côté.
Elle a
là,
l'habitude
vraiment.
De venir.
Vous êtes à côté, là, à dans... côté, vraiment.
Elle est à quoi ? Ma maman est à 100 mètres. Donc, par exemple, le matin, elle vient chercher le parent, elle vient chercher, on y va toutes les deux. Elle revient en fin d'après-midi, elle passe un moment ici et ça la détend. Ça lui fait du bien, ça la change de son quotidien. Du quotidien avec mon papa qui est très compliqué.
Oui.
Donc voilà.
Mais je pense vraiment, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, Séverine, mais je pense que vous êtes fatiguée et que vous êtes un peu en dépression. Et je pense que vous voyez...
Olivier, vous ne m'étonnez pas parce que je me suis surpris à pleurer plusieurs fois cette semaine.
Ben oui,
et que je l'ai dit.
Donc,
je l'ai dit à mon copain, je lui ai dit je fais de la dépression.
Ben
comme
oui,
c'est quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de ça, il me dit mais tu vas pas faire comme d'autres personnes, non, tu es plus forte que ça, tu ne vas pas le faire. Alors, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Comment on veut dire ? Si un jour, ça ne va pas, je sais que moi, le lendemain, ça va aller tout seul. Je sais que je répondis très, très vite. J'ai cette possibilité de rebondir très, très vite. Tu me connais. Je sais que même si je n'ai pas le moral un jour, le lendemain, je vais retrouver l'énergie.
Oui, mais il y a un moment où ça ne passera plus, ça, Séverine.
J'ai peur, oui.
Ben, oui,
j'ai peur.
Mais vous avez au moins là, vous arrivez à analyser les choses ce soir. Donc pourquoi ne pas prendre des décisions ? Et encore une fois, j'en reviens à vous dire de vous occuper de vous et peut-être de rentrer en contact avec un thérapeute. Vous devez avoir en plus, depuis le temps que vous vous occupez de votre fille, quand même l'habitude de côtoyer des thérapeutes, vous voyez bien que c'est nécessaire.
On les côtoie pas souvent maintenant parce que c'est tout centralisé sur l'IME. C'est vrai, quand elle était à l'hôpital de Saint-Étienne, c'était plus facile parce qu'on voyait les thérapeutes. Elle passait du temps avec les mamans aussi pour savoir si la maman allait bien aussi. Et là, maintenant, bah, c'est plus compliqué maintenant. Ça se résume à quoi, en fait? Un appel tous les 15 jours et une visite à l'IME une fois par an. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est pas comme avant où je voyais les thérapeutes souvent, on va dire.
Mais je pense que je parle d'un thérapeute pour vous, moi, hein, vous avez bien compris.
Oui.
Je pense que dans les thérapeutes qui s'occupent de votre fille, vous pourriez peut-être, la prochaine fois que vous y allez, demander qu'il vous conseille, qu'il vous oriente pour que vous vous occupiez de vous. Parce que lorsqu'on est dans un état comme le vôtre, là, le danger, c'est de glisser toujours plus profond. Et à un moment, être parti trop loin pour remonter toute seule la pente. Donc là, vous êtes dans un état mélancolique, je le sens.
Oui.
Un état où... Alors l'ambiance, l'environnement dans lequel vous êtes en plus ne favorise pas du tout de la joie, vous voyez, ou de la satisfaction. Vous sortez de chez vous, il y a des gens qui consomment de l'alcool dans la cour... Un voisin qui va être désagréable avec vous parce que vous êtes proche des boîtes aux lettres. Enfin, tout ça contribue à vraiment vous enfoncer toujours un petit peu, à subir en fait, comprenez ? Et je pense que là, ça fait, si vous pleurez souvent, ça fait un moment que vous traversez un état dépressif et qu'il faut vous occuper de vous.
Parce que Olivier, il y a une phrase qui me revient. C'est quand je suis venue m'installer ici, on était en train de nettoyer avant d'aménager, et quelqu'un qui s'est mis à dire bah, « c'est ça la nouvelle voisine ?» Et alors, et ça m'a ça m'a fait du mal qu'on me dise « c'est ça, comme si j'étais une chose. »
Je comprends, mais bon...
Et je ne veux plus qu'on me traite comme ça.
Mais non, je comprends. Alors, Yvette a raison. Il faut que vous déménagiez. Il faut que vous déménagiez.
Mais je ne peux pas, c'est pas possible ça.
Vous êtes sûr que ça n'est pas possible ou parce que vous avez peur qu'on vous retire la garde de votre fille? C'est deux choses différentes, ça.
Déjà, il y a mon papa et ma maman. Puis moi, je me sentais bien quand même dans cet appartement. Cet appartement-là, il me plaisait et j'en ai marre de partir pour quelqu'un.
Oui, je comprends.
Je ne peux plus faire ça toutes les fois. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, voilà. J'ai juste envie qu'on me foute la paix. C'est tout.
Et vous ne vous sentez pas de vous mettre comme des œillères et de vous en foutre, finalement, de ce que ces gens qui ont l'air...
Alors,
quand même...
c'est ce que je me prépare à faire, justement, quand je ne regarde pas, quand je descends. Mais intérieurement, ça me fait du mal, même si je ne leur montre pas.
Non, mais ça, je comprends parfaitement. Maintenant...
Et un jour, j'ai peur de craquer.
Oui, mais je pense réellement qu'il faut que vous vous occupiez de vous, là. Et il faut absolument faire cette démarche d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, quoi, et lui dire
que
ça ne va pas.
Ce qui me retenait aussi, c'est le niveau financier, parce que bon, je ne travaille pas, c'est quand même très compliqué aussi, c'est une source de problème quand même, donc c'est tout ça qui m'inquiète.
C'est la fin de l'émission, malheureusement, ma chère Séverine, donc je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter.
Mais ça m'a fait du bien de vous parler en tout cas, je me sens bien.
Bon, très bien.
Je me sens bien.
Mais c'est bien la preuve que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui vous respecte et qui vous écoute. Et vous voyez, ce soir, ce que vous avez fait, eh bien, ça serait la même chose avec quelqu'un qui s'occuperait de vous, au demeurant un thérapeute. Mais n'hésitez pas à me donner des nouvelles, en tout cas, d'accord ?
Mais je vous rappellerai, c'est promis. Et puis, je remercie tous les gens qui vous ont laissé des messages pour moi. Et puis merci beaucoup à
Très
vous
bien.
Et bonne soirée.
Bonne soirée, je vous
merci.
Embrasse et vous dis au revoir.